Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Myriam avec vous, une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, je suis ravie d'accueillir Emmanuelle Stiwi, une femme au cœur géant, qu'elle fait vibrer en se battant. Pas juste pour elle, mais pour les autres. En effet, Emmanuelle fait de belles études et se destine à une carrière de cadre dirigeante en entreprise, mais le destin en décide autrement. Elle devient maman pour la première fois d'une petite Alicia, porteuse d'un syndrome génétique rare. Et bien sûr, sa vie bascule. Emmanuelle n'est pas la seule à vivre ce genre d'épreuve, mais sa réaction force l'admiration. Du handicap de sa fille, elle fera un combat positif pour plus de solidarité, de fraternité, d'entraide et d'inclusion. Avec son mari Jérôme, elle va créer ce qui n'existe pas, le village des enfants extraordinaires. Un lieu magique, exclusivement dédié à ces enfants pas comme les autres, qui leur propose ce que la société ne leur offre plus. Un espace de beau, de joie, de bien-être, de partage et d'apprentissage totalement adapté. C'était bien sûr une évidence de la recevoir dans Femmes en Lumière aujourd'hui. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Myriam, merci pour l'invitation.
Eh bien merci à toi surtout de l'avoir acceptée. Alors Emmanuelle, tu peux t'en douter, en démarrage d'émission, on a toujours une formule consacrée qui est Emmanuelle, est-ce que tu pourrais te présenter ? Mais moi j'ai envie de te la poser différemment. Emmanuelle, mais qui es-tu ?
Vaste question. Écoute, je crois que tu l'as bien introduit.
J'ai déjà dit quelques choses.
On pourrait dire que je suis une maman extraordinaire. Alors, on pourrait, prime abord, se dire que c'est un petit peu prétentieux. Mais je vais utiliser le extraordinaire au sens strict, à savoir que je ne suis pas une maman ordinaire parce que j'ai, parmi mes trois enfants, une enfant qui est différente et donc qui nous a rendus différents et qui nous a fait vivre une vie différente, toute la famille.
D'accord. Alors, peux-tu nous raconter ton parcours avant la naissance d'Alicia, donc, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle?
Mon parcours était assez classique, on va dire. Donc, j'ai fait des études supérieures dans une école de commerce, et ensuite je me suis destinée à travailler dans un cabinet de conseil en stratégie, un cabinet américain. Donc, très challenging, très instructif. J'étais vouée à avoir, je dirais, une carrière de cadre d'entreprise, cadre dirigeant, comme mes camarades de promo.
Donc, oui, c'est ça. Donc, tu fais des études, c'est à l'ESCP, c'est ça ?
C'est ça, oui.
D'accord. Donc, une prépa, bonne élève.
Voilà, 15 ans de conservatoire de piano, ah oui, de solfège, donc une deuxième école à côté de l'école.
Ouais, grande discipline.
Exactement.
Ok, donc et tu travailles en entreprise ? Tu as après tes études, tu fais l'expérience de l'entreprise ?
Je travaille après l'école pendant 5 ans avant de devenir maman pour la première fois.
D'accord, ça marche. Et donc, alors, comment ça se passe, cette naissance ? Tu as quel âge, déjà, à ce moment-là ?
J'ai 28 ans. Mm-hmm. On va dire que moi, c'est, quand on dit avant JC et après JC, moi, c'est avant Alicia et après Alicia.
Ouais, c'est ça. Oui, il y a eu le avant et le après.
Il y a eu le avant et le après, et j'ai vécu deux vies différentes, on va dire. Voilà, tu m'as demandé qui j'étais. Je pense que je suis. Il y a eu la femme d'avant et la femme d'après le 6 décembre 2005, pour être précise. Eh bien, la grossesse se passe merveilleusement bien, dans la joie et la bonne humeur. Et puis c'est vrai que l'accouchement est le déclencheur d'une succession de surprises pas forcément positives et très vite qui nous amène à un diagnostic d'une maladie génétique. Donc clairement gros bouleversement, choc, on va dire, oui, parce du jour au lendemain.
Parce que rien,
on n'était pas préparé à ça.
Il n'y avait pas eu d'information au préalable, rien n'avait été détecté.
C'est une grande question qu'on se pose encore de savoir.
Est-ce que ça aurait pu être détecté?
Est-ce que ça aurait pu être détecté si peut-être que le suivi médical, pourtant qui était reconnu dans des établissements hospitaliers de renom, s'il avait été autre, est-ce qu'on aurait pu peut-être identifier pendant la grossesse un dysfonctionnement? Certainement que oui, mais bon, on va pas refaire l'histoire et le but n'est pas de ressasser ou de regretter. On va de l'avant.
Surtout pas, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que voilà, vous avez fait avec ce qui s'est passé et ce que vous avez fait, on va le voir au cours de cette émission, est assez extraordinaire. Alors, donc, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots, donc, comment se manifeste ce handicap dont est porteuse Alicia?
Concrètement, elle a une déficience intellectuelle.
Donc ça porte un nom
assez importante. Oui, ça porte un nom. C'est une maladie génétique extrêmement rare. Il y existe uniquement 400 occurrences dans le monde. Donc la recherche ne s'intéresse pas à ce genre de maladie qui est vraiment très très rare parce qu'il n'y a pas assez de cas. Elle est non verbale, donc elle communique très bien, mais pas comme nous. Pas avec des mots, elle communique avec des gestes, avec des signes, avec des monosyllabes, un peu comme un bébé, je dirais.
D'accord.
Elle n'a pas conscience du danger, donc ça veut dire que ça requiert aussi une surveillance en permanence. Elle n'a pas encore acquis la propreté. Je ne désespère pas, peut-être un jour, de faire en sorte que un jour elle enlèvera les couches la nuit comme
donc,
le jour.
Donc ça que tu parles aujourd'hui
encore, à 20 ans. Oui, depuis toujours.
Et oui, elle a 20 ans aujourd'hui.
Depuis toujours. Ouais.
Elle a 20 ans en ce moment. Très bien. Donc ça s'appelle le syndrome cardio-facio-cutané.
C'est ça, un terme un peu barbare. Voilà.
Et 400 cas seulement dans le monde, quoi.
Exactement.
Ok. Donc les implications pour vous en tant que parent, pour toi en tant que maman, en fait, c'est quoi dès le départ?
En fait, c'est une enfant fragile d'un point de vue médical qui demande beaucoup de suivi au niveau cardiologie, au niveau dermatologie. Au niveau
dermatologie, pourquoi?
Parce qu'elle a une peau très fragile qui a tendance à avoir beaucoup de démangeaisons, notamment la nuit, donc qui la réveille, donc qui perturbe le sommeil. Elle ne supporte pas les chaleurs, elle ne supporte pas les grands froids, elle ne supporte pas le stress également. Donc les implications, c'est que dans un couple, la majorité des couples qui ont un enfant en situation de handicap, il y en a un des deux qui va devoir soit s'arrêter complètement de travailler, soit de réadapter complètement son agenda professionnel.
D'accord. Et donc là, ça, c'est toi qui t'arrêtes?
Donc moi, je m'arrête quand elle naît. Je m'arrête immédiatement. Pendant 2 ans, je cours les hôpitaux. On parle du médical, mais il y a aussi tout le suivi paramédical, kiné, psychomotricité, orthophonie, pour stimuler un petit peu le langage, la communication, l'autonomie. Donc oui, je m'arrête, mais je m'arrête 2 ans parce que après ça devient compliqué. Donc il faut absolument que je reprenne une activité autre que salarié, bien sûr, pour pouvoir être libre de mes horaires.
Oui, c'est ça.
Alors, et de mon organisation.
Oui. Alors je vais revenir sur cet aspect de se battre pour la faire évoluer. En fait, il y a quelque chose d'assez étonnant. Tu dis que vous vous battez pour qu'elle avance, pour lui apprendre un maximum de choses. On vous avait dit qu'elle marcherait pas.
Exactement.
Et puis au final, vous avez réussi à la faire marcher. Vous lui avez fait de l'équitation. Mais il y a quand même. Donc, on veut lui apprendre à compter. Il y a des séjours à l'étranger. Lié à ça,
on a passé 3 mois à Jérusalem au centre Feuerstein spécialisé sur la stimulation cognitive et la remédiation cognitive qui a fait des miracles avec des personnes qui avaient subi des accidents vasculaires et qui avaient perdu leur fonction cognitive. Elle nous fait voyager,
oui,
elle nous mène partout et on est prêts unis pour justement la faire avancer. juste et ne pas écouter les médecins, en effet, ouais, qui nous avaient prédit dès la naissance qu'elle ne marcherait pas. Et bien sûr, je ne les ai pas écoutés et elle a fini par marcher à 6 ans.
Ah là là, voilà. j'aime bien le bien sûr. Bien sûr, je ne les ai pas écoutés. Donc c'est quoi là? C'est quoi? C'est une foi de maman, c'est une confiance en
c'est ne pas se fermer c'est... des portes à peine la vie arrivée. Ouais. C'est se dire que tout est possible et se dire et essayons d'aller voilà au maximum de ce qu'elle peut offrir et ce qu'elle peut donner.
Et donc il y a alors je vais pas dire je vais pas employer le terme acharnement, mais il y a quand même voilà une envie de bon, est-ce qu'on peut faire en sorte que au moins elle compte, qu'elle parle, qu'elle dise bon. Et puis à un moment donné il y a une question qui surgit. C'est quoi cette question qui surgit?
En fait, à un moment donné, je me suis dit peut-être que si c'est tellement difficile de faire en sorte qu'elle arrive à parler, qu'elle arrive à compter, qu'elle arrive à écrire, qu'elle arrive à lire, parce qu'en fait tout ça, au final, il faut qu'on fasse le deuil de oui. tout ça, oui. et même le deuil de l'école aussi, de l'école ordinaire, ça c'est une étape très déterminante oui. Dans la vie des parents et bien des sûr. Enfants. Eh bien, finalement, la seule question qui compte, c'est rendons-la heureuse. Oui. Faisons en sorte que ce soit un être humain épanoui, heureux d'être entouré oui. d'amour et d'amitié oui. et qu'elle ne souffre pas de sa différence. Oui, donc j'ai ça. Un peu switché, oui. changé d'objectif de vie.
Oui. Voilà. Oui, parce que finalement voilà, hein, c'est là que s'opère le vrai deuil finalement peut-être de l'enfant rêvé ou normal ou comme on l'entend ou parfait hein, exactement. Et donc finalement voilà, tu te dis qu'est-ce qui compte finalement? Est-ce que c'est qu'elle sache compter ou est-ce que c'est qu'elle soit heureuse quoi?
Voilà, alors, et là aujourd'hui ça. Quand je vois combien elle est joyeuse, combien elle aime la fête, la musique et elle aime aller vers les autres, bah, j'ai l'impression que j'ai rempli mon rôle.
Le pari est réussi. Et puis du coup, tu vas retomber enceinte un an après.
Exactement.
Non mais comment c'est possible quoi?
C'est vrai que dans l'entourage où souvent les parents d'enfants en situation de handicap s'arrêtent après l'enfant. Alors moi, c'est vrai que c'était mon premier enfant. Avec mon mari, on s'est dit, enfin, pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir aussi une famille comme les autres. Oui. Donc, allons-y. Ça va déjà lui faire du bien à elle, peut-être, d'avoir un petit frère ou une petite sœur qui va la stimuler. Ça va nous faire du bien à nous.
Ouais, c'est ça.
De vivre, espérons-le, une parentalité ordinaire et de pas être focalisé dans cette position de parents d'enfants handicapés. Et ça va nous donner encore plus de force, pour elle et pour le second qui est un garçon.
Et ben voilà. Donc le bonheur, hein, on l'attend pas, on va le chercher.
Exactement.
C'est un petit peu ça,
ça
là.
Se construit.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça la devise. OK, eh bien merci beaucoup Emmanuel, c'est le moment de faire une première pause musicale et on se retrouve juste après, à tout de suite.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires. Ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Emmanuelle Stiwi, présidente et cofondatrice du village des enfants extraordinaires, est notre femme en lumière du jour. Alors Emmanuelle, selon une récente étude qui a été relayée par l'UNAPI en 2025, donc l'UNAPI, je le rappelle, c'est le premier réseau français d'associations de représentation et de défense des intérêts des personnes porteuses de handicap, notamment mental. Et donc d'après cette étude qu'ils ont relayée, plus de 80 000 enfants seraient exclus du système scolaire en France, soit partiellement, soit totalement. Alors on n'a pas les bons, on n'a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres exacts. Enfin c'est assez, la donnée n'existe pas. C'est quand même assez, c'est assez extraordinaire. C'est de ce constat-là que naît le village des enfants extraordinaires.
Et c'est d'un constat, oui, mais c'est d'un constat complémentaire qui est qu'aujourd'hui en France, environ 100 000 enfants n'ont pas de solution éducative. Et quand je dis solution éducative, c'est ni l'école ordinaire, ni un institut spécialisé qui serait plus adapté à leurs besoins.
Mais c'est ça, il n'y a rien du tout.
En fait, c'est ce qu'on appelle les familles sans solution, entre guillemets.
100 000 ?
100 000, qui sont en attente d'une place dans un institut spécialisé parce que l'école ordinaire, c'est déjà très compliqué en fait, et le temps d'attente moyen est de 3 à 4 années où ils sont seuls chez eux, entre quatre murs, sans occasion d'apprendre ni de socialiser.
Oui, non mais voilà, donc c'est un abandon, l'abandon le plus complet. Alors comment elle naît cette aventure? Raconte-nous ce que c'est déjà ce village des enfants extraordinaires.
Alors, le village des enfants extraordinaires, c'est un lieu à Saint-Maur-des-Fossés sur 1500 mètres carrés qui est complètement innovant, qui dépoussière un petit peu l'univers du handicap parce qu'il marie aussi bien l'univers du divertissement que celui du handicap. nous avons tout conçu et adapté avec des équipements qui viennent soit de l'étranger, soit qui ont été faits sur mesure, avec 21 entreprises pour proposer des activités motrices, numériques, sensorielles, éducatives, artistiques, complètement adaptées à leur capacité et à leurs besoins, à des enfants en situation de handicap mental sévère, et dans lequel nous proposons également des ateliers d'art-thérapie, musique, art plastique, karaté, cuisine, jardinage.
C'est le rêve, quoi.
Voilà.
C'est un lieu de rêve, quoi. Donc tu disais que vous aviez fait intervenir des architectes, enfin des artisans qui ont travaillé au Puy du Fou, à Disney, enfin...
Tout à fait. Donc, en fait, on n'a pas soigné uniquement le fond, on a soigné aussi la forme. On tenait absolument à faire du beau pour ces enfants, parce
du
qu'ils
beau
le méritent.
Au service du bien. Moi, c'est ce que tu m'as dit, ça m'a beaucoup touchée, cette phrase.
Exactement.
Du beau au service du bien.
Exactement. Ces enfants le méritent. Et ils sont souvent dans des environnements très moroses, très cliniques, un peu déprimants, tout en blanc, sous prétexte qu'ils ont des hypersensibilités visuelles ou sensorielles. Mmh. Alors, voilà, ils sont toujours dans des endroits un petit peu, finalement, un petit peu angoissants. Donc, on a voulu aller à l'encontre de ça en leur proposant un cocon de joie hors du temps. Et quand tu arrives, en fait, au village, tu arrives immédiatement dans un espace joyeux, chaleureux.
Oui, c'est assez extraordinaire. Alors extraordinaire, hein, justement. Enfin voilà, bon, c'est un petit peu, tu vois, c'est venu spontanément, mais forcément, c'est ça qui force l'admiration, parce que 1500 mètres carrés, quand même, tu disais, c'est pas rien. Ça a nécessité une levée de fonds de 2 millions d'euros.
3.
Même, ah bah, ok, on est passé à 3 millions. Ok.
Presque 3. Ouais.
Presque 3 au final. Donc l'initiative, vous l'avez en 2010 à peu près, c'est ça, Alicia, elle a 5 ans.
Alors, on a l'idée depuis de longues années. Il a fallu trouver le bon moment pour qu'on soit en bonne santé, parce qu'on a eu beaucoup aussi de problèmes de santé, comme tous les parents d'enfants en situation d'handicap.
Ouais, il y a le corps qui lâche à un moment donné.
Voilà.
Toi, t'as passé un an alité après le deuxième, c'est ça?
Exactement. Donc, il a fallu trouver le bon moment aussi au niveau professionnel. Mon mari était en pause entre deux entreprises, une qu'il avait vendue et une qu'il allait créer. Donc en 2019, on crée l'association et on met donc 5 ans pour sortir le projet de terre. On inaugure les lieux en septembre 2023 avec 2 ans de travaux et puis une année de, comme tu disais, une première année pour collecter des dons, la deuxième année pour chercher les locaux, ensuite faire les études de design, trouver les entreprises et ensuite 2 ans pour conduire les travaux et ensuite trouver l'équipe, des intervenants extérieurs et des salariés, l'équipe permanente.
Ok, Emmanuel, comment on fait? Non mais comment c'est possible? Parce que donc, alors j'ai mentionné la deuxième grossesse, donc Raphaël qui arrive un an après, mais il y en a 3 en vérité, parce que vous n'êtes pas arrêté là. Comment on fait? Donc le troisième arrive.
Alors le troisième arrive 6 ans après le deuxième. Donc
c'est
on a fait quand même une petite pause,
mais il faut quand même le faire, quoi.
Voilà.
Donc, comment on fait? Où est-ce que tu? Enfin, c'est quoi ta? Qu'est-ce qui t'anime?
Ce qui m'anime, c'est de croire en l'humanité, voilà, de croire en la force de l'humanité, en sa capacité à faire de belles choses, de grandes choses, notre capacité en tant qu'être humain, voilà, à construire et pas à détruire, à s'entraider, à être solidaire et voilà, pour transmettre et faire du bien.
Ouais.
Voilà ce qui m'anime et ce qui m'a animée avec mon époux. Ce projet, on l'a fait avec nos tripes, on l'a fait avec notre cœur. On n'a pas compté nos heures. C'était une grande aventure humaine. On a fait de très belles rencontres grâce au village. Donc, ça apporte une vraie satisfaction, même si derrière, il y a aussi beaucoup de sacrifices sur plusieurs plans.
Oui. Oui, donc en fait, voilà, c'est cette idée que le meilleur est possible et que s'il n'existe pas, on va aller le créer, quoi.
Exactement.
Hein, c'est un petit peu ça, c'est ça qui est complètement fou. Donc vous réussissez à lever les fonds,
les dons, hein.
C'est vraiment les dons. Les dons. Il hein. Y a un partenariat très important avec Personnage.
Oui, avec la Fondation Personnage, une très belle rencontre avec Christophe Lasserre-Ventura, ouais. qui est président de cette belle fondation que son grand-père Lino Ventura a créée il y a 60 ans.
Ouais, oui, c'est magnifique.
Parce que papa lui-même d'une fille pas comme les autres, qu'il a complètement mené à ce qu'aujourd'hui il y ait plus de 50 maisons personnages partout en France, des maisons de vie pour adultes en situation de handicap mental.
Ok, donc inauguration septembre 2023, et là, comment ça se passe? Quel accueil est-ce qu'on vous réserve? Est-ce qu'il y aura des prix aussi? Elle va être primée, cette initiative. Alors, assez rapidement.
C'est vrai que c'est une bonne question parce que pendant 5 ans, tu travailles en mode projet, en fait. Tu travailles avec des entreprises, avec des partenaires, mais tu n'as pas encore vu le public, tu n'as pas encore vu les enfants, tu n'as pas encore vu les fratries, parce qu'on accueille aussi les fratries et les parents. Donc, c'est vrai que tu te poses beaucoup de questions, même si on a fait des études pour leur demander leurs besoins, leurs envies, leurs rêves. Et donc là, on passe dans une autre phase, la phase avec les familles, les enfants.
Le concret, quoi.
C'est formidable et c'est là vraiment une immense fierté, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, une grande satisfaction que de se dire que voilà, c'est utile, c'est nécessaire, ça fait progresser les enfants, ça les fait évoluer.
Oui, vous le constatez, ça.
On voit en fait des enfants qui commencent à sortir des sons alors qu'ils n'avaient jamais, ils avaient toujours été dans le mutisme, qui s'ouvrent, des amitiés qui se créent alors qu'il faut bien comprendre que c'est un public, il y a pas d'amitié, il y a pas de relation sociale en fait parce que ce sont des enfants qui sont exclus de partout. En fait, pas que de l'école, qui sont exclus des centres de loisirs, des colonies de vacances, des espaces publics. Quand on dit exclus, c'est qu'ils sont regardés de travers, s'ils vont voir un spectacle et qu'ils font du bruit en plein spectacle, ça va déranger. Et donc là, c'est vrai que c'est la plus belle récompense de toutes ces années de travail, de voir la reconnaissance des familles.
Oui, parce que c'est ça aussi, on en parle pas assez, on en parle même jamais en fait, c'est de l'impact que ça a aussi sur les familles, cette exclusion totale de la société, l'impact que ça a sur le travail, sur la vie professionnelle, sur les couples, sur la vie de famille, sur les fratries, c'est assez assez extraordinaire. Donc là, comment vous intégrez justement les fratries et les parents, les familles?
Alors, quand tu parles d'impact, donc en effet, nous, c'est vraiment ce qu'on recherche, hein, c'est vraiment toucher un maximum de familles en leur offrant une demi-journée par semaine au village à travers des bourses qu'on leur propose, qui leur permet d'accéder au village financièrement. Donc, c'est vraiment un projet solidaire qui est possible et accessible à toutes les familles, quel que soit leur niveau de ressources. Alors, c'était ça notre, ce à quoi on tenait vraiment, c'est que ça soit solidaire. Voilà. Pour répondre à ta question sur les fratries, l'innovation aussi. Alors, le village est très innovant à différents titres. D'un point de vue de l'innovation sociale, nous sommes les premiers à accueillir non seulement les enfants en situation de handicap, mais leurs fratries qui sont ordinaires et qui ont besoin aussi de beaucoup.
Donc, vous les accueillez aussi?
On les accueille. On a pensé le village pour qu'elles puissent y trouver leur compte, s'amuser, passer du bon temps. Profiter des activités en accès libre. Et nous accueillons aussi les parents. Donc, on a prévu des lounges spécialement dédiés au partage pour les aidants, les accompagnateurs, parents, grands-parents, aidants, parce que ils ont besoin de répit, ont besoin d'échanger, ils ont besoin de se confier les uns aux autres et ils ont besoin de créer du lien parce que eux aussi, en fait, sont isolés. Voilà. Donc, en fait, on accompagne trois publics.
Oui. Et alors donc combien vous avez aujourd'hui de, alors comment on les appelle, des abonnés?
Les abonnés. Alors depuis que nous avons ouvert le village, nous avons 200 familles qui ont fait confiance au village et après de façon régulière qui viennent de façon hebdomadaire, nous avons à peu près 80 familles sur l'année.
Sur l'année, incroyable. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un besoin parce que là on est que sur Saint-Maur.
On est que sur Saint-Maur et on a 600 familles en attente, hein, donc ce n'est pas faute d'espace ou faute d'équipe, c'est surtout faute de financement puisque les les familles, on les finance à 90%.
Oui, c'est ce que tu disais. Il y a aussi cette notion donc de solidarité jusqu'au bout, faire en sorte que la possibilité de venir au village ne soit pas soumise aux revenus. Hein, vous aménagez les...
Tout à fait.
Les...
On fonctionne avec le système de quotient familial, donc on a 12 tranches et le prix à l'année de l'abonnement annuel varie selon les ressources. Voilà, on demande le relevé d'imposition, le dernier relevé d'imposition.
Histoire que tout le monde puisse en bénéficier.
Exactement, et que ce soit un projet le plus équitable et le plus juste possible.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel. Nous allons faire une seconde pause musicale et on se retrouve juste après.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. And I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. In too deep. And it's been 2 years. I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe. Yeah, I still believe. And all those things I didn't say. Wrecking balls inside my brain. I was screaming.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous êtes de retour sur IDFM Radio et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, Emmanuelle Stiwi, présidente et cofondatrice du village des enfants extraordinaires, est notre femme en lumière du jour. Alors Emmanuelle, tu es également, on le disait, maman de deux autres enfants. Donc il y a Raphaël qui naît un an après Alicia.
21 mois, enfin je tombe enceinte quand Alicia a un an.
Un an, bon bah donc, voilà, voilà, un peu de choses près, voilà. Et donc le troisième,
Jonathan,
donc 6 ans plus tard, voilà, après la naissance
aujourd'hui
de,
à 12 ans.
De Raphaël, qui a 12 ans aujourd'hui. Alors, comment eux ont-ils vécu cette situation ?
Alors, ça n'a rien à voir. L'un qui a grandi et qui a grandi avec sa sœur, comme oui. s'ils étaient siamois, et qui a toujours connu la vie avec elle, qui a compris très jeune, voilà, ce que c'était que l'autonomie de fait, parce que voilà, il a vu ses parents très concentrés, donner beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, beaucoup de soucis. Beaucoup. Donc c'est vrai que Raphaël, il a très vite été un jeune pas comme les autres, plus sensible, plus mature que les jeunes de son âge,
oui, voilà.
plus autonome. Mmh. Donc ça l'a énormément renforcé, tout en lui faisant acquérir l'empathie pour les autres, naturelle en fait, le sens de l'entraide. Voilà. Après, bien sûr, le fait qu'il soit un garçon réservé, peut-être fait que ça vient du fait qu'il a compris que voilà, il fallait pas déranger, il aime pas déranger.
Et c'est ça.
Voilà, il ne nous dérange jamais, bien sûr.
Il s'autorise pas à trop déborder, quoi.
Voilà, mais il voit ses parents déborder et donc voilà, il se débrouille et il va faire de grandes choses dans sa vie et ça va être un grand homme et on le voit déjà dès maintenant.
Wow. Donc il a 19 ans là maintenant.
Il a 18 ans.
18, oui, c'est ça, dans 18 ans. Mois. D'accord. Et donc alors, où est-ce qu'il, à quoi il se destine selon toi? Qu'est-ce qu'il fait vibrer, lui, Raphaël?
Ce qui le fait vibrer, c'est d'être avec les autres. C'est voilà, c'est des valeurs d'humanité. C'est le défi. Il voit aussi beaucoup ses parents qui ont essayé de relever beaucoup de défis. Donc c'est vrai qu'il aime bien se lancer des défis.
D'accord.
Voilà. Et puis Jonathan,
la graine de battant, graine de warrior, quoi. Ok.
Jonathan, c'est autre chose puisque lui, il est arrivé beaucoup plus tard quand sa sœur était déjà voilà plus âgée. Donc il y a des choses qu'il comprend pas forcément. Et puis il exprime aussi son désaccord, son mécontentement. Et il a raison. Il la traite comme n'importe quelle autre sœur.
Ah.
Et finalement, c'est sain. Voilà, ouais. C'est très sain.
Ouais, ça restaure un petit peu d'équilibre. Là aussi, il s'autorise, voilà, dire quand il est pas content, quand ça lui convient pas.
Il est pas content, ouais. Qu'elle exagère, qu'elle fait des bêtises. Pourquoi elle a le droit à si et pas à moi? Mais je lui dis, Jonathan, ouais. On va pas faire le décompte, parce que je pense que voilà, vous n'êtes pas destinés aux mêmes vies. Donc, il n'y a pas de comparaison possible et l'amour est le même pour chaque enfant.
Ouais, il y a 12 ans, on arrive à intégrer ça.
Peu à peu,
on y arrive. Et comment est-ce que on gère Emmanuel cette l'exclusion au quotidien? Alors bon, là, je vais pas parler, on va pas parler du point de vue des frères, mais juste soi-même, quoi, hein, en tant que parent.
Alors, ce qui est vrai, c'est que dès le départ, la vie change. Le handicap, c'est un révélateur de personnalité. Ça fait sortir la vérité, que vous le vouliez ou non. Il y a un tri qui se fait parmi les amis, hein, qui se fait naturellement finalement.
Ouais, vous avez
les gens réagissent plus ou moins bien, avec plus ou moins de tabous. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a bien avancé aussi sur ce sujet, mais ça reste un sujet qui fait peur, surtout le handicap mental. J'ai l'impression par rapport au handicap moteur, et donc voilà, on est plus lent que les autres en vacances, donc on peut pas forcément suivre le même rythme, donc voilà, donc très vite, finalement, c'est dans la difficulté, c'est dans l'adversité que se révèlent les vraies personnes. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, puisqu'on est entouré que de personnes sincères, honnêtes, bienveillantes. Et finalement, est-ce qu'on cherche pas tous la vérité? Est-ce que ça, ce qui compte, c'est quoi? C'est la quantité ou la qualité au final?
Ouais, voilà. Ouais, c'est quand même un sacré, ouais, c'est quand même un sacré truc, quoi. Hein. Ouais, le handicap révélateur de vérité.
C'est ça.
Ouais, autour de soi. Ouais, assez extraordinaire ça. Alors, donc Emmanuel, bien sûr, t'es aussi une épouse. Vous avez fait beaucoup de choses là, tous les deux, ensemble avec Jérôme. Vous êtes des partenaires au-delà du partenariat du couple, si on peut dire ça comme ça. On sait. Que 70% pardon des couples explosent au moment à la naissance d'un enfant porteur de handicap. Comment fait-on pour tenir?
Alors c'est vrai que c'est aussi un sujet, hein. On a parlé des fratries, on a parlé, on parle du couple, tout comme la vie professionnelle ou la vie sociale, la vie amicale. Donc c'est aussi un défi de travailler son couple comme on travaillerait une amitié aussi. Il faut, en fait, ce qui est usant, ce qui est fatigant, c'est qu'on est, les nerfs sont mis à rude épreuve, la fatigue, c'est oui, souvent c'est ça. Ça le problème, tu disais qu'on dort mal la nuit.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors, les nuits blanches, t'as pas fait, en fait, tu me disais que t'as pas fait de nuit normale entière.
Voilà, les tu nuits, c'est pas des nuits normales depuis que
tu sais pas
née.
Ce que
après,
c'est. Ça fait 20 ans que tu sais pas ce que c'est.
Les choses simples, en fait, sont compliquées. Tout est, le quotidien est compliqué. Un brossage de dents, ça peut être une guerre, qui se finit en pleurs et en sang. Voilà, une douche, faire prendre une douche. Enfin, voilà, on peut pas forcément raisonner ces enfants qui ont pas forcément l'effet d'expérience. Et puis aussi, qui ont peut-être aussi été traumatisés dès la naissance par, beaucoup de passages à l'hôpital. Donc, pour revenir au couple, eh bien, en fait, il faut, je pense, beaucoup parler. Il faut bien s'entourer aussi. Je pense que c'est important le rôle des proches, de la famille, des grands-parents.
Pour apporter un peu de soutien.
Pour apporter du soutien, aussi bien psychologique que logistique. En fait, nous, le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, bah, c'est de nous laisser, par exemple, juste un peu de répit. Et comme à tous les parents, une nuit, une journée, sans être en tension permanente. La tension qui peut être liée à des troubles du comportement. Voilà, il faut imaginer que si on vous enlevait la parole, comment vous faites pour vous exprimer ? Donc ces enfants-là, parfois, on dit qu'ils sont violents, qu'ils tapent, qu'ils frappent, qu'ils mordent, mais c'est simplement que c'est leur façon de s'exprimer.
Mais oui, parce qu'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas d'autres capacités de.
Voilà. Donc c'est vrai que les deux mots attention et tension sont permanentes. Donc c'est vrai que le couple est mis à rude épreuve. Et puis il n'y a pas que ça à gérer en fait. Il n'y a pas que cet enfant. Il y a les autres enfants. Il y a le travail. Voilà. Il y a tout ce que gère une famille ordinaire. Donc, on essaye d'être fort, on essaye de se battre pour y arriver et avoir une vie pas comme les autres, mais une vie qui tend vers le bonheur.
Ouais. Et donc tu disais, ouais, le plus beau cadeau, c'est ça, c'est une journée de répit. Donc, c'est pouvoir confier Alicia. Vous pouvez la confier?
Alors, c'est de plus en plus difficile.
Ah bon ?
Les enfants qui grandissent sont de plus en plus difficiles à gérer. Quand ils sont petits, c'est plus facile.
Ah bah tu vois, je pensais que ça aurait été l'inverse.
En fait, avec l'adolescence, elle a sa volonté qui s'affirme. Elle veut faire ses choix. Et puis, il peut avoir aussi des soucis de santé, une fragilité aussi. Donc, il faut quand même. L'erreur n'est pas possible. On n'est pas sur n'importe quelle tâche où on a le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. On l'a retrouvé tout récemment hier. En fait, j'ai fait l'erreur de ne pas fermer la porte de chez moi et en fait, elle a ouvert la porte et elle a descendu les escaliers, chose qui est quasiment impossible. On l'a retrouvée en plein milieu des escaliers, elle aurait pu y passer. Voilà, donc l'erreur est fatale, il faut, comme un bébé, en fait,
oui, c'est ça,
toujours être en permanence.
C'est le lait sur le feu. C'est,
exactement.
C'est une surveillance de tous les instants, donc vous ne pouvez pas la confier. Donc, alors,
on peut la confier à des très proches pour des très courtes durées.
D'accord. Voilà. Et le village, alors, elle en profite ?
Eh bien, paradoxalement, ce qui est fou, c'est qu'on a été, voilà, on a eu cette énergie et cette étincelle pour faire ce village très ambitieux pour les familles. Et finalement, c'est elle, bien sûr, qui est notre source d'inspiration. C'est sûr que si elle n'avait pas été là, le village n'aurait pas existé. Mais au final, elle n'en profite pas tant que ça, puisqu'elle est prise en charge dans un institut médico-éducatif et qu'elle vient de temps en temps le samedi en profiter. Mais c'est surtout pour les autres qu'on a fait ça. Comme on aurait aimé que on puisse faire ça pour nous à l'époque quand elle était plus jeune.
Et ben voilà. Donc si on pouvait encore s'interroger sur la raison de ta présence ici, Emmanuel, je crois que là on a la réponse. Voilà, une merveilleuse démonstration de de générosité, d'humanité et de, j'ai envie de dire presque de transmutation quoi. Enfin pour moi, c'est, il y a un truc presque métaphysique dans ce que vous faites, au sens de voilà, vraiment transformer le plomb en or. Tu vois, alchimique quoi, ce truc de voilà, comment je peux faire de quelque chose de tellement dur quelque chose de beau et joyeux, d'ultra positif, dont le plus grand nombre va pouvoir bénéficier.
Bah c'est transformer une épreuve. On aurait pu se battre contre les institutions, contre plein de choses, contre plein de gens, contre plein d'injustices. Il y a vraiment de quoi se battre en fait, parce que voilà, il y a beaucoup de difficultés, oui, rencontrer beaucoup d'obstacles, mais on a essayé de mettre notre énergie pour construire, pour avancer et pour les autres, et d'en faire du bien, et pour les hommes, je me dis que c'est ma mission de vie avec Jérôme, c'est notre mission, et donc c'est peut-être pas un hasard si ça m'est tombé dessus, c'est que j'étais faite pour ça, pour aider les autres. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini, bah j'aurai rempli ma mission et je pourrais aller.
Oui, oui, voilà, ben ouais, là c'est clair que là tu pourras dormir tranquille, ça c'est clair. Bien écoute, merci infiniment Emmanuel. Nous allons faire notre dernière pause musicale et on se retrouve juste après. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I'm meant to be, this is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me.
Yeah. IDFM, 98FM.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière et avec nous, Emmanuelle Stioui, présidente et cofondatrice du Village des Enfants Extraordinaires. Emmanuelle, tu vas te prêter dans quelques instants à l'interview Spotlight. Es-tu prête?
Prête.
Emmanuelle, très bien. Alors, il y a 5 questions en tout, hein. Donc, la première, le regard des autres, Emmanuelle, tu dirais plutôt ça glisse ou ça pique?
Ça glisse. Ça piquait au début, mais maintenant, voilà, ça y est, ça, avec l'âge, j'ai bientôt 50 ans, ça y est, c'est
ouais,
fini.
Ça y est, ça glisse. Ouais. Comment ça peut se manifester?
Il faut faire un travail sur soi pour se dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et ouais, c'est normal. Et il ne faut pas chercher, quand on est jeune, on cherche beaucoup aussi l'approbation des aînés et à plaire à tout le monde. Après, c'est peut-être propre à ma personnalité. Maintenant, j'ai accepté, c'est très animal, en fait.
Que tu ne puisses pas plaire à tout le monde.
On se sent ou on se sent pas.
Ouais, ok. D'accord. Et le regard, du coup, sur le handicap. Est-ce que il y a des gens qui manifestent, je sais pas, est-ce qu'il y a des réactions?
Je le vois de manière plus globale, en fait. Le regard sur le handicap, c'est le regard sur la différence de manière plus globale, en fait. Mmh. Puisque tu vois que, à l'école, un enfant qui est un peu trop grand, un peu trop petit, un peu trop gros, c'est déjà un problème, ou qui a un peu trop de boutons. Donc, en fait, le handicap n'est qu'une différence parmi les autres, les orientations sexuelles, les comportements différents, les cultures différentes, les origines différentes. Donc, ça fait partie aussi de notre mission au village, de sensibiliser à la différence et de prôner les valeurs de la tolérance, de la fraternité, de l'acceptation de soi aussi et du respect des autres. Voilà, ça paraît peut-être bateau, mais on revient à des valeurs essentielles de l'éducation et qui sont fondamentales pour construire une société équilibrée.
Oui, bah merci de le rappeler, Emmanuelle. On est tellement en plein dedans, en fait, en ce moment. Donc oui, rappelons-le, continuons de le rappeler toujours. Ça, vraiment, c'est effectivement essentiel. Deuxième question, Spotlight, Emmanuelle. Qu'est-ce que Alicia t'a appris que personne d'autre n'aurait pu t'apprendre?
Que rien n'est impossible. Que plus rien ne nous fait peur. C'est mon challenge le plus difficile dans ma vie. Tout le reste, je peux y arriver. J'essaie d'y arriver.
Ouais.
Donc, c'est ce qu'elle m'a appris, c'est d'être capable de répéter 1 million de fois avec ces enfants-là, ce que tu répéterais peut-être 2 ou 3 fois pour que ça rentre sur
c'est
un enfant
ça.
Ordinaire.
Ouais, c'est ça.
Et ne pas lâcher, ne pas se décourager, ne pas abandonner, parce que finalement, ça va le faire. Mais par contre, il faut être patient. Je pense à un exemple.
Oui, voilà, tu peux.
Je pense à un exemple.
L'histoire de la bombe.
Alicia, on l'avait mise tout de suite à l'équithérapie sur les conseils de professionnels parce qu'on sait combien le poney peut avoir beaucoup d'apports pour les enfants différents. Elle était hypotonique, donc elle tenait pas sa tête, elle marchait pas. Et donc on nous a dit, il faut qu'elle fasse des séances d'équithérapie, ça va lui faire beaucoup de bien, c'est reconnu pour les enfants en situation de handicap. On a dit ok, on y va, on s'inscrit. Compliqué déjà de s'inscrire, on l'inscrit. Première chose qu'on vous demande dans un cours d'équithérapie, c'est de mettre la bombe sur la tête.
Mais
on
ne
peut pas être sur le cheval ou sur le poney sans cette
sécurité.
Cette sécurité. Sauf que, en fait, elle veut pas, elle a peur, elle n'accepte pas, elle ne se laisse pas faire. Une fois, deux fois, trois fois, donc tu te dis, on ne peut pas faire le cours. Le cours s'arrête là et le cours aussi, c'est compliqué d'obtenir un cours d'équithérapie en région parisienne.
Et donc là,
tu peux dire j'arrête.
Ouais, c'est ça.
Tant pis, je me décourage en fait, et c'est comme ça pour tout. Eh bien, il nous a fallu 1 an. Toute la première année, on est allé toutes les semaines en séance d'équithérapie, et l'objectif, c'était de faire en sorte qu'elle accepte de mettre la bombe sur la tête. Et au bout d'1 an, elle a accepté. Alléluia.
Incroyable.
Et donc, les cours ont pu, à proprement parler, démarrer.
Non,
mais donc, ça veut dire que c'est un exemple fort pour dire finalement, n'abandonne pas. Voilà ce qu'elle m'a appris.
Magnifique. Merci beaucoup, Emmanuelle. Troisième question, Spotlight. La chanson qui te met tout de suite de bonne humeur.
En ce moment, je suis sur Never Enough. Et This Is Me, donc je suis sur The Greatest Showman. Alors, tu le sauras pourquoi, parce que nous avons fait une grande soirée de solidarité à Bobino en février.
On l'a écouté, This Is Me, oui.
Tout à fait. Et du coup, ça retrace l'histoire de la création du cirque par Barnum aux États-Unis 19e siècle,
absolument.
Qui réunit des curiosités humaines, voilà. La femme à barbe, les bipolaires, les nains, voilà, toutes les différences pour en faire un cirque. Et donc je suis à fond sur toutes les chansons de The Greatest Showman,
oui, absolument,
qui diffuse des beaux messages,
mais tellement merveilleux,
de tolérance, de respect, d'humanité, de je suis moi, et voilà,
This Is Me, absolument. Emmanuel, c'est quoi ton refuge anti-coup de mou?
C'est la sororité.
Ah,
voilà. Chouette. C'est vraiment le partage entre femmes qui fait du bien, voilà, et qui nous permet de se lâcher, de se confier.
Ouais. Donc c'est quoi? C'est des petites soirées, des petits restos entre filles.
Voilà.
Quoi,
je trouve que avec la vie, on se rapproche de plus en plus aussi. On aime être entre femmes parce qu'on vit beaucoup de choses communes, et finalement être une femme, c'est aussi difficile dans la société d'aujourd'hui. En fait, il faut déjà se battre pour femme.
C'est un peu pour ça qu'on est là, figure-toi.
Voilà. Donc en plus d'être mère extraordinaire, d'être une femme, c'est pas facile tous les jours. Ouais. Donc de se retrouver entre femmes pour pouvoir s'épauler, ça fait du bien.
Qu'est-ce que tu trouves de pas facile à être une femme aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu tiens ce discours?
Parce qu'on nous demande tout, finalement. On nous demande tout. Et pour il faut
c'est-à-dire
il faut travailler, il faut s'occuper des enfants, il faut recevoir à la maison, il faut savoir bien cuisiner, il faut rester mince et belle. Et puis il faut ramener un salaire, il faut il faut toujours faire ses preuves, donc il faut se battre, donc à double titre.
Bon, OK, donc on se fait des bouffes entre copines pour un petit peu essayer d'oublier tout ça. Ça marche. Allez, dernière question spotlight, Emmanuel. Si tu pouvais glisser un petit mot à l'oreille du monde, ça serait quoi?
Continuons à croire en l'humanité. Gardons espoir en la bonté de l'homme.
Eh ben, ça sera le mot de la fin, parce que moi, j'ai rien à ajouter à ça.
Merci.
Merci infiniment, Emmanuel, d'avoir joué le jeu. Notre émission touche à sa fin. Et avant de la clôturer, juste, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette femme lumineuse et extraordinaire que tu es?
De continuer à avoir de la force, de l'énergie et de la santé pour poursuivre mes actions et réaliser mes projets.
Continuer l'aventure, d'autant que je crois que l'idée, c'est d'ouvrir d'autres villages, un petit peu partout en France.
C'est ce qu'on espère,
C'est ce que, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment, Emmanuel, à nouveau pour ce partage tellement plein de générosité, d'humanité et de lueur d'espoir qui nous montre que nous pouvons être le changement que nous voulons voir dans le monde, en fait.
Merci Myriam.
On te souhaite le meilleur pour la suite. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, mardi prochain, de 18h à 19h, en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci Emmanuel, et à la semaine prochaine.